joint aux salutations de Paul en début de cet rassemblement. Je voudrais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi dans le livre de 1 roi. Mon objectif ce matin, c'est de parcourir le livre des rois, 1 roi et 2 rois. Nous ne sommes pas tous liés, vous en doutez. Mais si vous avez éventuellement votre pouce glissé dans 1 roi à partir du chapitre 2, ça pourrait vous aider à suivre certaines parties, certaines lectures de la prédication. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la technique du pochoir. Les pochoirs, c'est des formes qu'on découpe dans des cartons, dans des supports. Et vous avez peut-être déjà testé ça vous-même. Ça vous permet de reproduire un motif plusieurs fois à l'identique. Donc, souvent, c'est découpé à l'intérieur et puis on bombe ça avec de la peinture ou avec la neige en mousse ou voilà, avec des petits pinceaux, des feutres, peu importe. Et puis, quand on enlève le pochoir, en fait, on découvre la forme qui avait été découpée, elle apparaît. En fait, on peut faire deux techniques. On peut faire le tour du pochoir, on peut faire l'intérieur du pochoir, si on veut être précis. Et donc, ça permet de reproduire à l'identique un schéma et un motif. Et en réfléchissant un peu à ce livre des rois, on découvre que c'est un peu l'idée de l'auteur. Il peut nous faire voir qu'il y a un pochoir. Il y a un pochoir qui est beau, qui est grand, qui est bien, qui a un peu la forme de David, le roi David qu'on a vu précédemment, un roi selon le cœur de Dieu. Et selon la forme que va avoir le roi en Israël, maintenant à la suite de David, le peuple aussi va prendre cette même forme, il va se reproduire selon ce même pochoir. Et le beau pochoir de départ, c'est celui de David. Il ne faudrait pas le déchirer, il ne faudrait pas le froisser, il ne faudrait pas en faire autre chose, parce que sinon, ce ne serait plus aussi beau, ce ne serait plus aussi bien. Alors, on va regarder particulièrement la vie de Salomon ce matin. On va voir est-ce qu'il correspond avec le pochoir du roi David. Et après ça, vous pouvez lire la suite du livre des rois et comparer, c'est ce que l'auteur du livre fait. Voilà, il a fait comme David, souvent vous allez voir cette référence. Ou alors, au contraire, il n'a pas fait comme David. Il n'était pas selon le beau modèle, il n'a pas reproduit le pochoir. Et on va voir que Salomon, c'est pas mal au début, le roi établit le royaume par son écoute de la parole de Dieu. Ce pochoir-là, il est délimité par la parole de Dieu. Et on va voir aussi qu'il anéantit ce même Salomon, le royaume, par son idolâtrie. Donc c'est ce que j'ai invité à regarder un petit peu avec moi ce matin, et prions encore très, très profondément. Seigneur, nous savons que ta parole est bonne, nous savons que c'est vraiment stratégique, c'est vraiment essentiel que nos cœurs, nos oreilles, notre intelligence soient tournées vers toi pour comprendre ta parole et pour l'aimer. Et nous savons qu'en nous, ce même instant, cette même seconde, il y a des idoles qui font la compétition avec ta parole dans nos cœurs, qui ne veulent pas qu'on entende, qui ne veulent pas céder leur place à toi, le vrai roi. Et je te prie, Seigneur, pour moi-même, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont là ce matin, pour tous ceux qui sont présents. Seigneur, que tu fasses que nos idoles tombent devant toi, devant ta gloire, devant ta majesté, que tu nous aides à penser grand, à penser selon Jésus-Christ, selon ta parole, selon le royaume que le roi des rois a établi pour nous. On va voir trois parties. D'abord, le royaume qui est établi par justement l'écoute de la parole, le problème de l'idolâtrie pour Salomon. Et puis, une troisième partie, on va regarder un des œuvres majeures de Salomon, qui est la construction du temple et comment Dieu est venu habiter donc, par Salomon dans un endroit solide, fixe, au milieu de son peuple Israël. Mais aussi comment, à cause de l'idolâtrie, le temple va finir par être détruit, le peuple en exil. Mais d'abord, on est à la fin du règne de David, d'accord? David, personnellement, il est vieux, Il est fatigué, il est faible, vous pouvez voir ça au début du livre des rois. Il a régné pendant 40 ans. Et comme nous tous, il est atteint par la vieillesse, la corruption, la fatigue, la corruption de son corps. Et donc, au niveau personnel, c'est pas le top. Au niveau famille, c'est pas non plus brillant. Vous vous rappelez, Dieu avait annoncé ça, que Dieu allait faire venir un malheur sur la famille de David parce qu'il avait commis un adultère avec Bathsheba. Il avait tué le mari de Bathsheba. Et donc on voit ça aussi au début, à la fin du livre de Samuel et au début du livre des rois, deux fils de David qui essayent de renverser leur propre père, de renverser le roi David et de prendre sa place. Le royaume est en tension, il y a des divisions à l'intérieur de la famille et du royaume à cause de cela. C'est Absalom et Adonias qui vont voir ça plus en détail. Mais Dieu avait fait une promesse. Dieu avait dit qu'il allait susciter un fils de David qui allait régner sur le trône. C'était l'alliance qu'il avait fait avec David. Et Dieu tient ses paroles. Et Dieu donc ne permet pas que ses projets à lui ne soient contrecarrés. Et sa parole, ce qu'il a dit, elle advient. Et donc c'est Salomon qui est presque in extremis, mais quand même, est placé sur le trône par David. Sur le trône royal. Salomon, c'est celui qui est aimé de Dieu. Et c'est à lui que la promesse avait été faite d'être roi. C'était une promesse qui venait non seulement de David, son père, et donc Bathsheba, elle revient vers lui, elle lui dit, mais comment ça se fait que Adonias réclame la royauté alors que tu as promis à Salomon, ton fils, d'être roi? Mais c'était aussi la promesse de Dieu. C'était Dieu lui-même qui avait dit qu'il l'avait choisi. Salomon. Donc c'était pas juste une décision simplement humaine, d'un papa qui aurait préféré un de ses fils par rapport à d'autres, mais c'était une décision qui venait de Dieu. Et on voit donc cette parole se réalise, que il y a donc un successeur sur le trône d'Israël, et on voit que tout ce que Dieu a dit, donc s'accomplit. La parole de Dieu, en fait, s'accomplit toujours. Et peu importe si le peuple a une autre vision, peu importe si il y en a qui essayent de détourner ça, c'est ce que Dieu a dit qui va tenir. Vous pouvez juste voir un petit exemple de ça. Encore au chapitre 2, au verset 26, il y a Abiathar qui a comploté avec Adonias pour placer Adonias à la tête du royaume, et voilà qu'il est chassé par David, versets 26 et 27, et l'auteur nous dit, voilà ce qui arrive à Abiathar, c'est Salomon qui chasse Abiathar, le sacerdoce du Seigneur, et il nous dit, verset 27, de sorte que s'accomplit la parole que le Seigneur avait prononcée sur la maison d'Élie à Sidon. Donc Dieu avait dit que ce serait Salomon qui serait roi, et c'est Salomon qui est roi. Et on peut faire tout ce qu'on veut pour essayer d'empêcher ça, ça ne tiendra pas. Et Dieu avait dit à Élie bien des dizaines d'années auparavant que il n'y aurait plus un de ses descendants qui continuerait de s'occuper de la tente, de la rencontre, du tabernacle, qui ne serait plus un prêtre. Et bien, quelques dizaines d'années plus tard, contre tout ce que les manigances qu'on a pu essayer de mettre en place, Abiathar ne peut pas rester. La parole de Dieu s'accomplit. Dieu avait dit qu'il susciterait un descendant à David, qu'il allait le mettre sur son trône, c'était son alliance, mais cette parole de Dieu, elle se réalise. Et si vous regardez avec moi, je voudrais lire avec vous quelques versets maintenant, chapitre 2, verset 3. C'est ce que David a compris, que la parole de Dieu, elle est très importante. C'est que c'est par cette parole, par l'obéissance à cette parole, qu'un royaume comme le royaume d'Israël, le royaume de Dieu, c'est pas. Et donc, au soir de sa vie, au moment où il va passer le pouvoir à Salomon, chapitre 2, verset 3, voici ce qu'il dit à son fils. « Sois fort et sois un homme. Garde les observances du Seigneur ton Dieu, en suivant ses voies et en observant ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin de réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu iras, et afin que le Seigneur réalise la parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant loyalement devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu auras toujours un successeur sur le trône d'Israël. Ça, c'était des paroles que Dieu avait dit au moment de son alliance. Et c'est intéressant que dans les 11 premiers chapitres du livre des rois, et nulle part ailleurs dans tout le reste du livre, mais seulement dans ces chapitres qu'on est en train de survoler ici, toute l'histoire de Salomon, ces mêmes paroles sont répétées 3 fois. Ici, donc au chapitre 2, encore une fois au chapitre 8, et encore une fois au chapitre 9. Donc, 3 fois, on voit que soit David, soit Salomon sont conscients que obéir au commandement du Seigneur, suivre la parole de Dieu, obéir aux préceptes de Dieu, c'est quelque chose qui est important. C'est ça qui va fonder le royaume. Et donc, ici, on voit David qui encourage son fils donc, à veiller sur ses voies. Il parle de 3 choses. Il lui parle de veiller sur ses voies, donc d'être attentif, d'écouter Dieu, de comparer un peu ce qu'on fait, de réfléchir à ce qu'on fait pour voir est-ce que c'est conforme avec la parole de Dieu. Il lui dit, c'est pas juste une chose de comprendre et de connaître cette parole, mais il faut que tu la mettes en pratique aussi, mon fils. Et donc, il faut veiller sur ses voies pour agir selon ce que Dieu a dit. Pas juste pour se remplir la tête et avoir plein de connaissances de la parole de Dieu. Et puis, il dit une 3e chose aussi. Et ça va être très important pour Salomon. Il lui dit pour la mettre en pratique, mais comment? De tout ton cœur et avec tout ton âme. Et donc, David et le Seigneur lui-même a appris que le roi doit suivre la parole qu'il a dite de tout son cœur, de toute son âme, en veillant sur ses voies, en la mettant en pratique. Et au début donc, du règne de Salomon, ben, tout semble bien parti. On voit Salomon qui fait ça, qui écoute cette parole. La parole que David lui dit, la parole qu'il a reçue du Seigneur. C'est cette parole, vous avez remarqué, c'est selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Est-ce que vous savez combien de temps la loi de Moïse elle a été écrite avant Salomon? C'était pas 10 ans, c'était pas 20 ans, c'était des centaines d'années auparavant. Mais cette loi, ou cette parole de Dieu, elle reste toujours valable, elle reste toujours le socle sur lequel Salomon il doit construire. Il y a quelque chose de permanent dans la parole de Dieu. La parole de Dieu s'accomplit toujours à la lettre près. Et Jésus lui-même, il nous rappelle ça, n'est-ce pas, dans les évangiles. Il n'y a pas un trait de la lettre, il n'y a pas un iota de la loi qui va passer, qui ne sera pas accompli, qui ne va pas avoir lieu. Et Salomon, il prend ça à cœur au début. Et donc, il organise le pays, il organise le royaume. Et on voit donc le peuple qui prospère, on voit le royaume qui s'établit. Le peuple devient nombreux, on est au chapitre 4, verset 20. Le peuple est très 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 important maintenant. Chapitre 4, verset 20. Juda et Israël étaient nombreux comme le sable qui est près de la mer. On mangeait, on buvait et on se réjouissait. Puis la suite, au chapitre 5. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve, le pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient le tribut, ils furent soumis à Salomon tous les jours de sa vie. Donc non seulement le peuple grandit, il devient aussi nombreux que le grain de sable au bord de la mer, les limites, les frontières du royaume sont au maximum, elles correspondent exactement à ce que Dieu avait promis à Abraham. Donc depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate, c'était le pays que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants. Et puis, on voit vraiment Salomon qui est béni, il bénéficie d'une relation particulière. Dieu met tous les gens autour de lui en faveur de Salomon et en faveur du pays. Et donc tout, même les nations environnantes sont frappées par ce qui est en train d'arriver dans ce royaume d'Israël. Par ce Salomon qui prend à cœur d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et c'est non seulement bénéfique pour le royaume d'Israël, mais même toutes les nations convergent et viennent voir Salomon. Cette histoire fameuse, n'est-ce pas, de la reine de Saba qui fait des milliers de kilomètres pour venir constater, et même quand elle arrive, elle dit, mais c'est au-delà même de ce qu'on m'avait raconté. Je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce qui porte Salomon? Qu'est-ce qui fait que ça marche comme ça? Au début de sa vie, vous pouvez voir, chapitre 3, verset 3, Salomon aimait le Seigneur. Ça, c'était en premier. Et du coup, il suivait les prescriptions de David, son père. Et puis, il y avait aussi une autre chose qui caractérisait Salomon, un petit peu plus loin dans le chapitre 3, la fin du verset 7. Lisons le verset 7. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David, mon père. Je ne suis qu'un petit garçon. Il a 20 ans quand il dit ça. Je ne sais rien faire. Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Et donc on voit Salomon qui a aussi cette attitude d'humilité, de l'amour pour le Seigneur. Il veut écouter la parole de Dieu. Il a l'humilité pour reconnaître qu'il ne pourra pas lui-même faire ça. Et du coup, Dieu approuve ça. Dieu dit ça, c'est la bonne attitude, ça, c'est la bonne chose. Et on voit donc Dieu qui répond un petit peu plus loin, verset 11, la deuxième partie. C'est Dieu qui parle. Puisque tu demandes, Salomon, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi, personne de semblable à toi. On voit que le royaume de Dieu s'établit quand le roi écoute la parole de Dieu, quand le roi aime le Seigneur et que sa mise en pratique de la parole, elle découle de cet amour-là pour Dieu lui-même. Quand le roi désire rencontrer Dieu, comme on l'a vu ce matin. Quand le roi désire plaire à Dieu lui-même. Quand le roi place au-dessus de sa propre personne et de son propre autorité cette parole de Dieu. Quand il a l'humilité de faire ça, Dieu répond. Et Dieu établit et Dieu affermit le royaume de Salomon. Dieu donne les ressources nécessaires pour établir ce royaume, pour gouverner le peuple de Dieu. Et dans ce sens-là, on revient à cette idée de pochoir. Ben, Salomon, il est comme David qui aimait cette parole de Dieu. Il n'y arrivait pas toujours, il n'était pas parfait dans sa réalisation. Mais par contre, il y avait quelque chose qui ne changeait jamais chez David, qui était constant chez David. Il revenait vers le Seigneur, il préférait demander pardon, il préférait s'humilier, il préférait reconnaître ses erreurs plutôt que de persévérer loin de Dieu. Il aimait Dieu au-dessus de tout, il faisait confiance à Dieu. Pour le sauver, pour le délivrer, pour l'établir et pour le rétablir. De notre part aussi, le royaume de Dieu va se construire de la même manière, parce que Dieu ne change pas, parce que Dieu reste le même. Nous aussi, nous avons besoin d'un roi qui écoute la parole de Dieu et qui nous entraîne, nous, à sa suite pour écouter et pour non seulement écouter et comprendre cette parole, mais surtout pour l'aimer. Il faut écouter Dieu pour mettre en pratique avec un cœur plein d'amour. Imaginez une table pleine de nourriture succulente, les plus beaux aliments, les plus savoureux, les mieux préparés. Et imaginez quelle tristesse, n'est-ce pas, si on est là mais qu'on manque d'appétit. On aurait accès, ça nous est donné, ça nous est offert, mais si on est là et qu'on a le ventre rempli avec tout un tas d'autres choses qui nous coupent l'appétit, qu'on n'est pas prêt à manger de ces choses-là. On est en train de rater quelque chose de succulent et de bon. Ou bien imaginez que on regarde toute cette table avec ces beaux aliments bien cuits, bien épicés, avec des saveurs magnifiques, et qu'on désire plutôt prendre des bons, un petit peu d'énergie rapide pour tenir jusqu'au prochain. C'est une tristesse, n'est-ce pas? Donc, avoir une table remplie de mets, c'est une chose. Mais c'est l'amour pour ces aliments, c'est l'amour pour la parole de Dieu qui va être important. Et Salomon, Il demande la sagesse, il demande à comprendre, à être rendu capable de bien diriger le peuple. Et c'est une bonne demande, n'est-ce pas? Et c'est un bon début. Mais finalement, il y a quelque chose qui va venir clignoter petit à petit dans la vie de Salomon, ce bon démarrage. Il y a un amour supérieur à l'amour de Dieu lui-même, un amour supérieur à la parole de Dieu qui va prendre le dessus. Il y a Salomon qui commence à avoir beaucoup de chevaux, qui commence à avoir beaucoup de chars. Et bien que, justement, Dieu avait prévu, il avait dit, noir sur blanc, Deutéronome 17, qu'il ne fallait pas que le roi devienne tellement puissant avec tous ses chevaux, qu'il place sa confiance dans toutes ces richesses-là. Bien, Salomon oriente sa vie maintenant vers cela. On voit aussi Salomon qui accumule beaucoup de richesses. Et Dieu avait dit que ça pouvait être un piège, que ça allait être un piège pour le roi aussi. Et puis on voit enfin Salomon qui commence à avoir beaucoup de femmes, vraiment, vraiment beaucoup. Des femmes, des concubines, par centaines et centaines. Et là encore, c'est quelque chose que Dieu avait dit de ne pas faire. Ces femmes-là, du coup, en particulier, qui détournent Salomon de l'amour pour Dieu. On peut lire ça au chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon avait aimé beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniennes, les Hittites, venant des nations au sujet desquelles le Seigneur avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas vers eux, et ils ne viendront pas chez vous. Ils inclineraient à coup sûr votre cœur vers leur Dieu. » C'est à eux que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes inclinèrent son cœur. Au temps de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Son cœur ne fut pas tout entier avec le Seigneur Yahweh, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, et Miphaël, le roi des Ammonites. Salomon fit ce qui déplaisait au Seigneur. Il ne remplit pas ses obligations envers le Seigneur comme David son père. Alors Salomon bâtit dans la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'horreur de Moab, et pour Molech, l'horreur des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Et bien que, quand on lit le début du livre des rois, ça semble magnifique, ça semble enfin l'accomplissement des promesses d'Abraham. Enfin, le peuple est dans le pays promis, nombreux, en paix, avec la richesse, avec les nations qui sont en train de constater ça. Enfin, on dirait que voilà, les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. Voilà que, à cause de son amour pour autre chose que Dieu, Salomon est en train, non seulement lui-même de dévier, mais de faire dévier le peuple avec lui. Et Dieu, donc, à la fin du chapitre 11, annonce à Salomon qu'à cause de cela, le royaume va être coupé, séparé, divisé en deux parties. Les 10 tribus du nord, qu'on appellera ensuite Israël, vont s'écarter, vont refuser le règne du descendant de David, et puis le règne du sud, les 2 tribus du sud, Juda avec Siméon, qui vont continuer d'être sous le règne. Un roi davidique. Mais quand on continue, en fait, la suite, c'est qu'on met le pochoir sur d'autres rois, on se rend compte que ni dans le royaume du Nord, ni dans le royaume du Sud, aucun va revenir à cet amour pour les Seigneurs. Et quand il y en a un qui vibre un petit peu plus à cet amour pour Dieu, alors de nouveau les choses reviennent correctes dans le royaume d'Israël. Pensez à Joas, par exemple, qui redécouvre la loi d'Éternel et qui engage une grande réforme et qui ramène tout le peuple. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? On a oublié d'écouter la parole de Dieu. On a aimé autre chose que la parole de Dieu. Et il ramène tout le peuple. Et alors de nouveau vient un temps de gloire, un temps de prospérité, un temps d'apaisement pour le royaume de Dieu. Et d'autres rois reviennent encore après, et de nouveau s'écartent, et ils commencent à adorer autre chose que Dieu, à aimer d'autres choses que Dieu. Et que ce soit au nord comme au sud, les raisons qui font que finalement, à la fin du livre des rois, on découvre le peuple loin de son pays, en exil, mais plus dans la terre promise. Quand on découvre à la fin du livre des rois que le temple est détruit, on découvre à la fin du livre des rois qu'il n'y a plus un roi, fils de David, qui est en train de régner sur Israël. Et on compare les deux choses et on dit, voilà, le royaume est établi quand la parole de Dieu, elle est prise au sérieux, quand elle est écoutée, quand elle est mise en pratique. Et qu'est-ce qui fait qu'on va mettre ça en place? C'est un amour qui nous porte à ça. Le fond du problème, c'est un cœur. Est-ce que notre cœur aime cela ou pas? Et quand le cœur aime la parole de Dieu, ça marche. Quand le cœur se détourne de Dieu, ça ne marche pas. Il faut qu'on fasse aussi attention pour nous, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir de fausse sécurité. On ne peut pas pécher, on ne peut pas mépriser la parole de Dieu sans que Dieu soit offensé, sans qu'il n'y ait des conséquences pour nous. Mais Dieu est aussi celui qui est capable de changer les cœurs, de nous donner ce cœur qui vibre humblement à sa parole, à son projet, à lui. Dieu est celui qui peut nous donner l'audace de demander le secours de l'Éternel, de demander non seulement la connaissance et la sagesse pour mettre en pratique cette connaissance comme ça, mais aussi demander à Dieu un cœur transformé pour vibrer avec Dieu. Vous avez remarqué, pour moi, ça m'avertit un petit peu. C'est possible d'aller loin avec le Seigneur. Et dans quelque chose de positif, Salomon, il établit quand même un royaume qui n'a jamais eu autant de gloire. La Bible dit qu'il n'y a aucun royaume sur la terre depuis ce temps-là qui a eu cette gloire-là comme Salomon. C'est possible d'aller très loin avec le Seigneur, mais ce qui restera, c'est si on a réellement abandonné sa vie à Dieu. Si on l'a vraiment aimé plus que toute autre chose. Finalement, c'est ce que Jésus enseigne, n'est-ce pas, dans les évangiles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. Regardons un troisième aspect du règne de Salomon, qui a matière à nous encourager, après qu'on voit ce contraste-là. On voit Salomon qui construit, n'est-ce pas, le temple pour le Seigneur. Il a accumulé, David avait déjà accumulé pas mal de réserves, de richesses, de matériaux pour la construction du temple. Et maintenant, au chapitre 6 jusqu'à 8, on voit Salomon qui est en train de construire l'édifice. Il le construit dans 7 ans, de sa 4e année jusqu'à la 11e année de son règne. C'est un temple grand, un temple magnifiquement riche. Le deuxième temple qui suivra, il n'aura jamais la splendeur que Salomon lui a donnée au commencement. Un temple qui ne fait pas de bruit, vous pouvez lire ce détail-là, quand il se construit, les pierres étaient taillées à l'extérieur de la ville, et quand on l'a fabriqué, on n'entendait pas le bruit des scies, des marteaux, etc., mais on l'a juste vu petit à petit s'élever. Imaginez la construction d'une cathédrale au Moyen-Âge. Et quand on en est aux fondations, on remarque pas trop. Et puis, au fur et à mesure que l'édifice grandit et dépasse, et dépasse, et dépasse, wow, vraiment, de loin, toutes les autres maisons qui étaient aux alentours, ça devait être vraiment quelque chose d'impressionnant. Le temple de Salomon se construit sans faire de bruit, mais il se construit solidement. Et au final, il est très, très impressionnant. Peut-être un petit peu écho à certaines paraboles de Jésus qui nous parlent du royaume de Dieu qui semble rien au commencement, mais à la fin devient très grand et majestueux et glorieux et impressionnant. Et si vous lisez ces chapitres-là, vous allez voir, c'est comme un remake de la construction du tabernacle
On peut lire dans Exode 35 à 40.
Il y a des offrandes généreuses du peuple, il y a des ouvriers remplis de l'Esprit Saint et habiles, mandatés par le roi pour construire le temple. Et puis, finalement, Salomon amène l'arche à l'intérieur de l'édifice. Et quand il amène l'arche, alors Dieu vient, on manifeste sa présence à l'intérieur du temple. Il remplit tout le temple au point que les prêtres qui étaient en train de faire le service ne peuvent pas rester là. Ils sont obligés de sortir parce que Dieu remplit entièrement de sa présence, de sa gloire, l'édifice. On voit Salomon qui bénit Dieu. Il réalise que ce n'est pas lui qui a accompli ça, mais c'est Dieu qui a fait cela. Béni soit Dieu qui a accompli ce qu'il avait dit. Et il prie au chapitre 8. Il fait une assez longue prière, Salomon. Et il demande plusieurs choses. Je vous le résume, vous pourrez lire vous-même. Dans la prière de Salomon, il dit d'abord une chose. Comment est-ce que c'est possible qu'un Dieu si grand veuille être si proche et écouter ses enfants, veuille écouter un peuple comme le peuple d'Israël? Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse même envisager lui parler avec l'espérance, une espérance certaine que lui nous écoute? Comment ça serait possible, en particulier si on pêche? Et la plus grande partie de cette prière de Salomon, c'est de demander à Dieu quand ça va arriver, on va quelque chose de très réaliste. S'il te plaît, Seigneur, tiens ferme, toi, à tes promesses que toi-même tu as faites. Et ne nous rejette pas entièrement. Parce qu'il y aura un problème. On va pécher. On va pécher contre son prochain. On va pécher contre Dieu. Et Salomon, il sait quelles sont les conséquences de ça. Il a lu la loi de Dieu. Et à ce moment-là de sa vie, il est bien conscient de cette loi-là. Qu'on va être accablé par l'ennemi quand même... On va être emmené loin de notre pays par nos ennemis. Alors, s'il te plaît, Seigneur, écoute et pardonne. Et il demande donc à Dieu d'écouter, de pardonner, de faire justice, de ramener le peuple dans le pays, de l'enseigner, de pourvoir à ses besoins, de défendre le droit de son peuple. Il demande non seulement cette bénédiction-là pour Israël, mais aussi pour les étrangers, pour tout étranger qui viendrait à cause du nom de Dieu. Celui qui reconnaîtra, ou celle qui reconnaîtra que Yahweh est Dieu, est le seul vrai Dieu, qui reconnaîtra aussi son besoin de pardon, qui reconnaîtra aussi avoir offensé Dieu. Celui qui aura entendu la bonne nouvelle que, waouh, là-bas, à Jérusalem, il y a un temple et il y a un Dieu qui écoute, qui est prêt à pardonner. Et qui est prêt à sauver. Alors Salomon, il prie non seulement pour le peuple d'Israël, mais il prie aussi pour toute personne qui entendra cette bonne nouvelle, qui viendra. Et il demande à Dieu, voilà, même si des telles personnes, pécheresses comme elles pourraient l'être, viennent vers toi, s'il te plaît. Écoute, pardonne, fais justice, enseigne-les, pourvois aux besoins et défends le droit, afin que tous les peuples de la terre sachent que tu es Dieu, qu'ils te connaissent et te craignent. Et Salomon réalise que le problème, il se situe dans le cœur. Il dit, quand il y aura la famine dans le pays, quand il y aura la peste, quand il y aura la rouille, la nielle, le criquet, la sauterelle, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, aux portes de ses villes, quand il y aura toutes sortes de fléaux et de maladies, chaque prière, chaque supplication de tout homme, pour tout ton peuple, pour Israël, que chacun, alors que chacun connaîtra la plaie de son cœur et tendra les mains vers cette maison, toi, tu l'entendras dans le ciel, le lieu que tu habites, tu pardonneras, tu agiras et tu rendras à chacun selon toutes ses voies, parce que tu connais son cœur. Car toi seul connais le cœur de tous les humains. Ainsi, ils te craindront tous les jours qu'ils vivront sur la terre que tu as donnée à nos pères. Salomon, il reconnaît, et dans sa prière, quelque part, il invite ceux qui l'écoutent à prendre conscience qu'il faut qu'on connaisse notre cœur. Il faut qu'on reconnaisse la plaie qui est au fond de notre cœur. Parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas tendre les mains vers le Dieu qui peut nous sauver. Salomon demande à Dieu de rester fidèle. Même quand la coupe sera pleine, quand les limites auront été largement dépassées, et que les pires malédictions prévues par la loi seront appliquées, celles qu'on vient de lire, et jusque même la pire d'entre toutes, l'exil, quand le peuple aura perdu toutes les bénédictions qui avaient été données et promises par Abraham, eh bien Dieu dit que il va. Salomon demande à Dieu plutôt de rester fidèle et de faire en sorte que le peuple revienne. Et la condition pour que ce peuple revienne à Dieu, c'est un changement de cœur. Moïse lui-même avait déjà prévu dans Deutéronome. Il avait dit, mais il y a un jour qui va arriver. Il était en train de voir très loin. Il y a un jour qui va arriver où le peuple ne va pas écouter. Parce que son cœur ne sera pas circoncis, ne sera pas marqué par cet amour-là pour Dieu. Et Salomon fait le même constat. Le cœur du problème, si on peut dire, justement, c'est le cœur humain. Et Dieu dit qu'il a entendu cette prière-là et qu'il va en fait répondre à la prière de Salomon. Il dit à Salomon en réponse, chapitre 9, verset 3, « J'ai entendu ta prière, ta supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as bâtie pour que j'y place mon nom pour toujours. Mes yeux et mon cœur, dit Dieu, seront toujours là. Et toi, si tu marches devant moi comme a marché David ton père, avec un cœur intègre et avec droiture pour faire exactement ce que je t'ai ordonné, si tu observes mes prescriptions et mes règles, j'établirai toujours ton trône royal selon ce que j'ai dit à David ton père. Tu auras toujours un successeur sur le trône d'Israël. » Donc Dieu dit qu'il a entendu et qu'il va faire en sorte que le peuple obéisse, qu'il reste fidèle à l'alliance de Moïse et de David. Alors j'aimerais conclure et revenir sur trois idées que je voulais partager avec vous ce matin. Cette parole de Dieu qui établit le royaume, d'accord ? L'idolâtrie qui nous en écarte, et puis la promesse de Dieu d'un temple et d'un royaume qui est établi pour toujours par la fidélité de Dieu lui-même. Et j'invite à regarder comment le pochoir pour les rois qui suivent Salomon ne fonctionne pas. Pour Salomon lui-même, ça ne fonctionne pas. Et le besoin qu'on a alors d'avoir un roi qui écoute exactement la parole de Dieu. Ce pochoir, pour nous, c'est plus juste une loi qui est une loi de la lettre, une loi qui est écrite dans un livre extérieur à nous-mêmes. Mais pour nous, par Jésus-Christ, c'est une loi qui est non seulement écrite, accessible pour nous, de la connaître, mais qui est aussi rendue vivante en nous par l'Esprit que Dieu a mis en nous. Cet Esprit qui nous rend capables d'aimer cette parole, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, qui nous aide à voir combien l'amour de Dieu est grand, large, profond. Nous avons un roi. Et le pochoir a changé. C'est plus David, le David historique, c'est plus Salomon, mais c'est Jésus. Jésus qui lui-même a aimé la parole de Dieu, qui a accompli la parole de Dieu, exactement, en toutes les étapes. Il est plus que David, il est plus que Salomon. Et si nous suivons ce roi-là, nous allons être encouragés, portés à aimer cette parole et à vivre pour elle, selon elle. Il ne s'agit pas d'imiter Salomon, il ne s'agit pas d'imiter David. Il s'agit de suivre Jésus, qui est le vrai Dieu. Et en faisant ça, en fait, on va réaliser, puisqu'il est le vrai Dieu, c'est vraiment lui qui peut nous combler, qui peut remplir notre cœur de tout ce dont on a besoin. Je vous invite aussi à changer votre regard et de changer de pochoir, si vous voulez, par rapport au royaume de Dieu. On voit Salomon, c'était grand, c'était magnifique, c'était riche. Et on dit, waouh, c'était vraiment un temps de bénédiction. Et Salomon lui-même, à plusieurs reprises, il dit, béni soit Dieu qui amène les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et ça m'a fait penser à Éphésiens, cette prière de bénédiction au début d'Éphésiens, où l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, tu penses au royaume de Salomon, tu essaies d'imaginer que l'argent c'était vulgaire à cette époque-là, ça comptait pour rien du tout, qu'il y avait tellement d'or, tellement d'ivoire, tellement de choses précieuses. Et il faut changer le pochoir. Ton pochoir est trop petit si c'est ça que tu vises. Il faut un nouveau pochoir. Un pochoir qui ressemble à l'église de Cavaillon. Parce que Dieu soit béni, nous a comblés, nous-mêmes ici, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas du temple à Jérusalem. Pense plus grand, pense plus riche, pense plus solide. Les disciples de Jésus, quand ils ont vu le temple qui avait été reconstruit après l'exil, ils ont dit, wow, tu regardes ce temple, est-ce que tu ne trouves pas que c'est magnifique? Et Jésus dit, c'est rien du tout. Ce temple-là, maîtrisez-le et en 3 jours, je le rebâtirai. Il sera encore plus grand et plus glorieux et plus grandiose. Pense plus simplement à l'arche et au moment où elle a été amenée dans le temple, et il y a eu ce nuage qui a rempli entièrement 4 murs. Pense plutôt à la croix de Christ, son sang qui a été versé là, qui est le sang du sacrifice, qui a été versé comme un sacrifice propitiatoire, qui rend Dieu de nouveau favorable envers nous, qui fait que Dieu entend nos prières, qui fait que même quand il voit nos péchés, il nous entend à pardonner, à faire justice, à ramener nos cœurs vers lui, à nous enseigner, à pourvoir, à défendre notre droit. Ne pense plus aux prêtres comme Aaron ou tous ceux qui ont sacrifié des milliers de taureaux et de boucs au moment de l'inauguration du temple. Pense au seul sacrifice de Jésus sur la croix. Lui-même, en tant que prêtre, qui a officié en notre faveur pour que Dieu soit apaisé. Pense à l'église qui démarre comme le temple de Salomon, sans bruit. On n'entend pas les coups de marteau, on n'entend pas le ronron des scies, qui paraît petit au démarrage, et pourtant, qui grandit, et qui grandit, et qui grandit, au point même que les gens de toutes les nations sont attirés vers l'Église, et se disent, Dieu est vraiment en train de faire quelque chose parmi ce peuple. Tu penses à ce nuage qui a rempli le temple, mais pense plus grand, pense à la gloire de Dieu, qui est capable de remplir un cœur comme le tien, qui est capable de remplir le cœur d'hommes et de femmes pécheurs encore. Pense à la gloire de Dieu qui peut marquer et remplir les relations entre frères et sœurs dans l'Église, qui peut remplir toutes les activités, les réunions, les rassemblements d'Église, pas juste avec tout un tas d'activités de parole, mais avec une vie qui porte et qui porte du fruit. On a besoin de changer notre modèle et de regarder à Jésus. Je vais mettre juste un temps de silence, quelques instants, puis après je voudrais réfléchir à tout ça et après ça je voudrais prier courtement encore mieux.